Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Dimboumaï, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens sur Radio Okapi. Eh bien, votre magazine Parole aux auditeurs revient encore ce matin sur les engagements des parties prenantes pour le retour d'une paix durable à l'est de la RDC, avec notamment l'accord de Washington, la déclaration des principes de Doha, et aujourd'hui les questions de l'apport de l'élite scientifique congolaise dans ces accords ou engagements de paix. Bien souvent, des voix se lèvent pour dénoncer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces accords après tous les espoirs suscités une fois signés. En RDC, bien souvent, des gens remettent en cause ces accords et dénoncent le retard observé ainsi que les difficultés qui surviennent dans leur mise en œuvre effective. Pour les experts en management, ces accords sont généralement l'œuvre des politiciens et sont élaborés sans tenir compte du management opérationnel, qui est un volet important pour la réussite des engagements pris par les parties prenantes à ces jours. En dépit des espoirs immenses suscités par l'accord de Washington et la déclaration des principes de Doha, de nombreux Congolais, tout comme les acteurs politiques, saluent avec prudence les engagements pris par les parties prenantes et n'attendent rien d'autre que leur mise en œuvre effective, d'où l'impérieuse nécessité aujourd'hui plus que jamais d'initier des réflexions scientifiques sur les mécanismes pouvant garantir la mise en œuvre efficace et équitable de ces accords. Quel peut être, selon vous, l'apport de l'élite scientifique congolaise dans les accords de paix? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiookapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 0975-680-79. Debs Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination. Paul Badiani mais là pour l'équipe multimédia et au micro, c'est Marcel Ngombala. Toutes et à tous, et c'est en condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas bien travaillé.
Le Pinchouchap, dans ces pays, n'existait pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs, qui va s'épancher aujourd'hui sur l'apport de l'élite scientifique congolaise dans les accords de paix. Nous aurons pour invité, en tout cas si tout va bien, nos invités ne sont pas encore là, ils sont bloqués dans les embouteillages dans la ville. Nous aurons le professeur Mérite Oscar Ntaman, recteur magnifique et président du conseil d'administration des universités d'Isse-Promade, mais aussi le professeur Roland Vélé Mukelenge, professeur des universités, docteur en philosophie politique et chercheur en management. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci. On va lire quelques-unes de vos réactions avant que nos invités puissent nous rejoindre dans ce studio. On verra bien au niveau de la réalisation comment peut-être on peut déjà le joindre au téléphone. Alors, je m'en vais d'abord lire des réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs, mais aussi dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs. Nous avons déjà cette, par exemple, cette réaction de Batundi Angivika, docteur en management de projet depuis Kinshasa. L'accord de paix signé à Washington, la déclaration des principes signée à Doha ouvre la voie vers la paix. Cependant, la tension persiste entre les partis à tel point qu'il est pratiquement difficile d'évaluer les effets positifs de ces initiatives de paix. Il est impérieux pour les facilitateurs des États-Unis d'Amérique et du Qatar d'anticiper une planification des scénarios en vue de faire face à toute éventualité pour une solution immédiate, parce que la souffrance de la population ne doit pas être considérée comme un mode de vie. Les parties prenantes au processus des pays doivent à leur tour adopter une attitude positive et responsable afin de réduire la tension causée par des sorties médiatiques caractérisées par des interprétations divergentes du contenu des accords et ou des compromis. Voilà, là c'était la réaction de Batundi Angi Vicar, docteur en management de projet. Il nous a écrit depuis Kinshasa. Une autre réaction, c'est celle d'Anatole Moué-Chirois. Attends, j'espère avoir bien prononcé son nom. Il nous écrit depuis Bukavu. L'élite scientifique congolaise se doit d'attiser chaque jour le feu de l'excellence, peu importe les circonstances et les vagues de la nation, afin qu'elle soit non seulement consciente de sa population, mais aussi éducatrice pour améliorer les conditions de vie de celle-ci. Oui, c'est une tâche énorme, mais elle doit l'assumer et l'assurer sans s'immoler des tensions politiques. Voilà, ça c'est Anatole Moué-Chirois depuis Bukavu. La réaction du Joachim Kaimbo Mufalume depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. À mon avis, parler de l'apport de l'élite congolaise dans les accords d'appui semble difficile pour donner suite aux multiples défis qui s'observent dans la conclusion et dans la matérialisation des accords en RDC. De ces multiples défis, citons le manque d'appropriation nationale large des accords par la population, les intérêts égoïste de politiciens des parties prenantes qui intervient dans la conclusion des accords. En dépit de ces deux difficultés citées, en nous référant au passé et au contexte actuel, le rôle de l'élite scientifique serait d'essayer d'éclairer et faire comprendre à la population, surtout les communautés en conflit, la pertinence de tels accords, surtout à travers les organisations non gouvernementales et gouvernementales, car souvent, nombreux ne comprennent rien des accords de paix, alors que chacun a un rôle à jouer à son niveau pour le rétablissement de la paix, de jouer leur rôle en toute neutralité et impartialité en se comportant comme une église au milieu du village dans le but de départager les parties en conflit et trouver un compromis qui peut satisfaire d'une manière ou d'une autre les parties prenantes. L'histoire de la RDC nous renseigne que tel fut le cas lors de l'accord global inclusif de Sound City de 2002 à 2003 qui a mis fin à une longue guerre en RDC à cette époque. Bref, l'élite scientifique de la RDC aurait un apport dans les accords de paix s'il sera à mesure de canaliser les contributions positives des parties prenantes et de la population vers le rétablissement de la paix, mais cela ne peut être possible que si cette élite scientifique peut cesser de se comporter comme un prédateur à la quête de postes politiques. Voilà, là, c'était une très très longue réaction de Joachim Kaimbo Mufalume depuis Bukavu. On va lire au fur et à mesure toutes ces réactions. Je rappelle qu'aujourd'hui nous parlons de l'apport de l'élite scientifique congolaise dans les accords de paix. Comme vous le savez, bien souvent les accords de paix pour ce qui est du rétablissement de la restauration de la paix à l'est de la RDC constituent souvent un espoir pour la population congolaise, pour la RDC, mais beaucoup se plaignent, que ce soit au niveau des acteurs politiques, que ce soit au niveau de la population, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective des engagements pris par les parties prenantes, mais aussi par le retard observé parfois dans la mise en œuvre de ces accords. Et il y a des scientifiques, notamment des experts en management, qui pensent que ces accords sont souvent l'œuvre de politiciens et qui ne tiennent pas compte de ce que eux, les scientifiques, appellent le management opérationnel. De les questions pour nous, en tout cas avec nos deux invités, on espère bien qui finiront par nous rejoindre dans ce studio, le professeur émérite Oscar Ntsaman, recteur magnifique et président du conseil d'administration de l'université du Sopromat, mais aussi le professeur Roland Vélé Mukelenge, professeur des universités, docteur en philosophie politique, diplômé en sociologie politique des universités coréennes, mais aussi chercheur à management. On pourra voir comment, en tout cas, les avoir même au téléphone, hein, en attendant qu'ils puissent nous rejoindre dans ces studios. Je rappelle le numéro pour ceux qui aimeraient intervenir, en attendant nos invités. Vous pouvez déjà nous appeler au 09 716 80 79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Christian Kassessé, qui nous appelle depuis Kampala, nous gardons les chercheurs en droit public, interne et international. Christian Kassessé, vous avez la parole.
Oui, bonjour, cher Martin. Mes salutations également aux auditeurs qui suivront également l'invité qui seront là. Je voudrais en amont préciser que l'apport de l'élite congolaise dans le processus de conclusion des accords de paix, que ce soit celui déjà conclu à Washington, également celui qui est en cours à Doha au Qatar, en fait, aujourd'hui mesquin. Pourquoi il est mesquin? Tout simplement parce que, d'abord, on ne permet pas aux scientifiques congolais de pouvoir s'exprimer. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse demander aux scientifiques par des mécanismes républicains qui existent, de pouvoir en fait apporter leur part à l'édifice. Et c'est là exactement dans la phase d'abord des négociations, également même dans la phase de la conclusion, mais également dans la phase de la mise en œuvre. Déjà, vous regardez aujourd'hui que tout scientifique congolais qui essaie en fait de se former en une voie dissidente à ce qui concerne le caractère imperfectible de cet accord-là, il est aujourd'hui considéré comme un mouton à abattre. Et donc, déjà, lui-même, il se sent frustré, il se sent menacé dans sa survie physique et même morale. Ce qui fait qu'en réalité, on ne lui offre pas un espace pour pouvoir contribuer dans la formation et dans la conclusion de cet accord. Mais également, il faut poser la question, est-ce réellement, aujourd'hui, la RDC a pu sélectionner ses dignes fils et filles pétri des talents en matière d'abord de négociation. Parce qu'il faut le dire que négocier, c'est aussi un talent. Et conclure un accord qui, je le rappelle, est un acte juridique qui doit ici établir les obligations des deux parties n'est pas une mince affaire et n'est pas aussi un talent donné à tout le monde. Et là, dans notre République, le plus souvent, c'est la confiance politique qui prône sur la technicité ou l'expertise d'une matière donnée. Cher Marcel, vous avez vu l'accord de Washington être conclu en toute sobriété ou en toute amalgame. Pourquoi tout amalgame? Parce que déjà, un accord qui est conclu, mais on vous dit que c'est un acte juridique, mais qui n'est pas coercitif. Pourtant, tous on sait que les règles de droit se distancient de celles de morale, essentiellement sur les caractères coercitifs ou alors la sanction. Donc, ça pose déjà un problème de dire si réellement il y avait des experts en droit international pour pouvoir apporter leur soutien ou l'apport en fait au gouvernement congolais. Et c'est le gouvernement congolais qui en réalité doit savoir comment aller à la recherche d'abord de ces oiseaux rares-là. Je peux citer beaucoup de professeurs dont leur talent en droit international n'est plus à démonter aujourd'hui. Je cite mon maître, le professeur Moïla Tiembe. Je cite le professeur Tibankalala et bien d'autres. Et bien, il faut se poser la question si réellement ces citoyens ont été consultés. Parce qu'aujourd'hui, sous d'autres siens, on ne peut pas s'en passer de leur expertise. Donc, il y a déjà ces problèmes-là. Et donc, l'État même peut les recruter en tant que des conseillers. Mais aujourd'hui, ceux qui sont recrutés comme conseillers au ministère des Affaires étrangères, ils ont quelle expertise? Ils ont quelle expertise? Déjà, je cite, déjà, je fais mention ici que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kouakou, Thérèse, dont nous tous apprécions à tous, n'est pas un juriste de formation. Il n'est pas juriste de formation. Donc, pour dire qu'il n'est pas, il est placé, en fait, pour négocier cet accord-là. Il faudrait qu'il y ait ces gens-là qui, en réalité, se retrouvent dans les arcanes du droit international.
Christian, aujourd'hui, Christian, s'il vous plaît, aujourd'hui, question de parler, de faire un regard scientifique, parce qu'on est en train, on l'a dit, souvent ces accords sont remis en cause, en tout cas, que ça soit bien chez les acteurs politiques au sein de la communauté. Simplement, vous avez souligné, il y a des clauses qui sont deux fois pas interprétées de la même manière entre les deux parties, mais pour l'essentiel, les scientifiques, en tout cas certains, pensent que c'est parce que c'est l'œuvre de politiciens qui ont des calculs qui ne sont pas les calculs des scientifiques, et il faut absolument essayer de voir également, lorsqu'on fait ces accords, le côté management opérationnel. Voilà, si on doit insister sur le rôle des scientifiques par rapport à ces accords, par rapport à leur mise en œuvre, vous pensez que quelle peut être la place de l'intelligence congolaise dans les accords de paix?
Bon, moi je pense que les scientifiques ici, c'est qu'ils doivent être impliqués à divers niveaux, comme je l'avais dit en préliminaire. Ça veut dire d'abord au niveau de la négociation. Ça veut dire qu'avant que l'État commence déjà, il appelle les scientifiques pour le dire et de comprendre par rapport à la mise en œuvre de cet accord, par rapport à la négociation, qu'est-ce qu'on peut faire exactement au niveau de la mise en œuvre. Ça relève encore une fois de l'intelligence. Mais là, le gouvernement congolais ne fait pas référence à ces scientifiques-là. Et quand même il fait référence à ces scientifiques-là, ils n'ont pas aussi la culture républicaine. Ça veut dire cette honnêteté scientifique qui fait qu'on doit s'outrepasser. On doit se transcender et rester en fait dans les chemins de la vérité et de la vérité scientifique. On n'a pas ce comportement-là, voyez-vous. Mais déjà, comme je l'ai déjà, l'État aussi ne facilite pas en fait l'apport. L'apport aussi, comme j'ai dit, à divers niveaux toujours. Même après conclusion, on peut finalement, avec les critiques constructives, objectives ici, essayer en fait de faire comprendre à l'opinion la quintessence ou la tenue alors de ces accords. Je cite ici, par exemple, l'une des interventions de l'honorable Thomas Luakalo Sendjola. Nous avions vu, quand il a essayé un peu de critiquer cet accord, en réalité, c'est toute conscience objective s'est rendu compte qu'il y avait exactement beaucoup d'imperfections, exactement encore beaucoup à faire. Et que cet accord, et je le dis ici, on ne doit pas avoir une tendance de faire comprendre aux gens qu'un accord en tant qu'un acte de droit, il doit emporter ou comprendre des erreurs. Non. Puis s'il emporte les erreurs, cela peut déjouer à notre défaveur. Imaginez-vous qu'on puisse renvoyer déjà à les discuter. Lesquels sont logés, nourris, d'ailleurs, à grande échelle par les fonds publics, mais ils nous amènent un accord dont personne ne peut
voilà, apprécier. Voilà, merci beaucoup, Christian KCC, depuis Camp. Voilà, Nouganda. On me fait signe qu'il y a déjà de nos invités qui pourra tantôt nous rejoindre dans ce studio, le professeur Roland Vélé, qui est professeur Roland Vélé Mukelenge, qui est professeur des universités, docteur en philosophie politique, chercheur en management. Avec lui, on pourra peut-être en savoir un peu davantage par rapport à ce qu'il faut comprendre par management opérationnel lorsqu'il s'agit des accords. Alors, je reviens à quelques réactions sur la page Facebook de Paroles Auditeurs. Il y a le chef des travaux et jeune Paluku Malonga de l'université de Kisangani et chef de bureau au ministère des PVH qui nous écrit depuis Kisangani. Le thème du jour m'interpelle comme intellectuel mais aussi comme chercheur. Chers auditeurs, je dois avouer qu'en RDC, il n'y a pas de politique de recherche scientifique. Le chercheur est abandonné à son triste sort. Pas de bourse pour soutenir les chercheurs devant ces réalités congolaise dans le domaine de la recherche, comment le chercheur congolais peut contribuer significativement aux accords de paix en RDC. Voilà, c'est la réaction du chef des travaux et jeune Paluku Malonga de l'université de Kisangani. Un de nos deux invités, en tout cas, vient d'arriver dans ce studio. Ça nous fait énormément plaisir parce que les questions de fin de réflexion scientifique autour des accords de paix. Et je l'ai dit à l'introduction de ce magazine pour les experts en management, bien souvent ces accords sont conçus par des politiciens, sont l'œuvre des politiciens, et il y a un volet très important qui manque dans ces accords, c'est les volets management opérationnel, ce qui fait que on rencontre souvent des difficultés dans la mise en œuvre effective de ces accords. Et là, je dis bonjour au professeur Roland Vélé Mukilenge qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Professeur Roland Vélé, bonjour.
Bonjour, mon cher Marcel.
Voilà, on va vraiment rapidement gagner du temps pour, parce que vous êtes là, vous êtes chercheur en management, vous êtes professeur d'université, docteur en philosophie politique et diplômé en sociologie politique des universités coréenne. On parle des accords. Les accords sont souvent remis en cause, hein, aussi bien par les acteurs politiques ou par la population, notamment pour ce qui est de leur mise en œuvre effective. Et vous, les scientifiques, les experts en management, vous pensez qu'il y a un volet important qui est souvent négligé dans ces accords, c'est le volet management opérationnel. Dites-nous rapidement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par management opérationnel et comment ce volet peut être très capital dans la mise en œuvre effective des accords de paix.
Merci beaucoup, monsieur Marcel, pour l'invitation. Je voudrais, avant toute chose, faire remarquer que l'invité principal qui serait avec nous, qui, pour des raisons que vous pouvez bien imaginer, n'est pas encore là.
Il est pris dans les embouteillages. Oui, c'est pas facile.
Hein, oui, oui. Professeur Emérite Ntsaman, oui. Oulutu Oscar. Et là, il est docteur en management et c'est le président du conseil d'administration des universités du Sepoma de Congo. Alors, il a écrit un texte intitulé « Dialogue des sourds sur l'accord de paix de Washington ». Plaidoyer pour la transversalité de la formation en management stratégique et opérationnel dans tous les domaines scientifiques en RDC. Alors, c'est justement sur ce texte que nous aurions bien voulu discuter avec lui pour que nous, en tant que philosophes politiques, nous puissions aussi apporter notre contribution, car nous venons de lire ce texte, de les analyser et de savoir qu'est-ce qui peut être la contribution des scientifiques dans les accords en jeu dans notre pays. Alors, là, il faut reconnaître que le terme de management stratégique et opérationnel se situe à deux niveaux. C'est-à-dire, nous avons d'abord le management stratégique, c'est-à-dire comment faire au niveau général. Quels sont les grands principes, n'est-ce pas, qu'il faut faire pour réussir et pour gagner. C'est ça. Le management est une science presque transversale, dans la mesure où il intervient dans toutes les autres sciences. Quand vous faites le droit, c'est bon, mais quand vous faites le management du droit, c'est-à-dire vous apportez une touche nouvelle, comment faire pour que le droit produise? Comment faire pour que le droit soit utile? Quand vous faites le management des sciences économiques, c'est la même chose. Le management de la sociologie, de toutes les sciences, c'est une science transversale. Et à ce niveau-là, c'est les management stratégiques qui sont les grands principes qu'il faut respecter. Et dans les domaines des accords, comme nous l'avons dit, effectivement, il y a le niveau stratégique. C'est le niveau où on prend des grands principes qui seront appliqués. Et donc, il ne suffit pas seulement de savoir dire que voilà, en relation internationale, ce qui est prévu, c'est ceci, mais encore, comment il faut le mettre en pratique. Alors là, intervient aussi le management opérationnel. C'est-à-dire, lorsque vous avez défini de grands principes, il faut, à ce moment-là, aller dans l'application. Et quels sont les principes opérationnels? Comment on doit les appliquer? Et pour bien appliquer les accords, il faudrait une dose importante du management. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'impondérables qui arrivent. Il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent et il faut avoir la capacité non seulement de le surmonter, mais aussi de proposer des solutions médianes. Voilà, c'est ce qui est fait généralement. Et le professeur Saman, dans sa réflexion que nous avons lue, a appelé ça le dialogue de sourds. Dans quel sens? Lui pense que, à ce moment ici, beaucoup de gens ne comprennent pas effectivement la quintessence de ce dialogue-là. Et au niveau stratégique, l'accord qui a été signé au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau opérationnel où nous avons commencé avec Doha. Il faudrait que les scientifiques apportent leur contribution, notamment...
Concrètement, ça va se passer comment, ces contributions? Parce que lorsqu'il y a des rencontres ou des pourparlers pour ces accords, les scientifiques, on ne vous associe pas.
Absolument, c'est un problème sérieux. C'est-à-dire, vous savez, ce sont des accords multiformes, avec plusieurs dimensions. Il y a la dimension économique, il y a la dimension politique, il y a la dimension philosophique, il y a la dimension culturelle. Toutes ces dimensions-là, il faut le mettre ensemble. Et c'est ça le management. C'est-à-dire, ne pas rester dans un domaine figé. Il faut faire participer un grand nombre pour qu'on arrive à des accords plus ou moins acceptables et qu'on arrive à des résultats escomptés. C'est les intellectuels et notamment les managers insistent pour que dans l'application de ces accords, que des managers soient, n'est-ce pas, intéressés. Ça, c'est très, très important. Voilà.
Voilà, c'est très important. On va être un peu concret. Parlons de l'accord de Washington, où on parle de la neutralisation des FDLR du côté congolais et de retrait de comme on l'a présenté, de position de défense rwandaise du côté rwandais. Et quel peut être le rôle les scientifiques peuvent jouer concrètement, de manière, par exemple, la mise en œuvre, par exemple, de cet engagement-là ne pose pas problème.
Oui, voilà. C'est une question, par exemple. Les retraits des troupes rwandaises, n'est-ce pas? Et aussi, étouffer les groupes des interamouins qui se trouveraient sur le sol congolais. C'est une question importante. Mais dans la mise en pratique, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a simultanéité de cette action-là? C'est une question qui demande du management. Pour la mise en pratique de ça, qui va commencer? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Bon, dans les accords, on dit aussi, quelque part, désengagement. Il y en a qui auraient souhaité qu'on parle de retrait. Mais entre les deux concepts, désengagement et retrait, quel est le concept qui a une plus grande extension? À mon avis, c'est le concept désengagement qui a une plus grande extension parce qu'on peut se retirer sans se désengager. Vous comprenez? On dit, j'ai retiré mes troupes. Mais vous ne vous êtes pas désengagé, on peut soutenir les troupes de loin. Vous comprenez? Et quand on utilise les termes désengagement, à mon entendement, ça s'englobe et le retrait là-dedans. Et c'est un terme plus adapté, et ça c'est au niveau stratégique. Beaucoup de gens ont crié là-dessus. Mais regardez maintenant les principes de Doha. Alors, ici maintenant, on parle des retraits. Des retraits, ça c'est au niveau opérationnel. Donc, au niveau opérationnel, il y a des choses qui se définissent clairement en partant de grands principes qui ont été définis au niveau général, au niveau stratégique. Et là, les management intervient pour savoir pratiquement comment il faut le faire. Lorsque vous négociez, vous ne devez pas être en position de tout gagner. Parce qu'on négocie parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un conflit. Et pour résoudre ces conflits, il faut que chaque partie puisse accepter de perdre quelque chose. Un petit rien, vous perdez, mais tout en gagnant.
Donc, en principe, le gain et les pertes doivent être équitables.
Absolument, pas plus ou moins. Ça ne peut pas être tout à fait équitable, mais plus ou moins équitable. Plus ou moins équitable.
Voilà. Et voilà pourquoi c'est là qu'intervient le management opérationnel stratégique.
Tout à fait. Il faut qu'on puisse avoir du management, de la capacité de maîtriser les faits et de les appliquer de manière très subtile. Et ça, c'est très important. On ne doit pas rester sur le plan théorique, hein, de principes qui ont été édictés par les relations internationales, par le droit international. Il faut y ajouter du management, c'est-à-dire la capacité de les transformer et de les adapter aux conditions actuelles de notre pays. Voilà, et sur le plan culturel, économique, politique, juridique.
Il était important que vous arriviez dans ce studio, professeur Roland Ville-Mokeling, pour essayer un peu de nous aider à mieux comprendre c'est quoi cette approche de management stratégique opérationnel pour des accords de paix. On va poursuivre avec vous le temps pour nous de revenir au standard pour recueillir encore des avis des auditeurs par rapport à cette question de l'apport des élites scientifiques congolaises dans les accords de paix, notamment l'accord de Washington, et puis on l'espère qu'il y aura cet accord de Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Après avoir suivi Christian Kassessé qui nous appelait depuis Kampala, Ouganda, on revient au pays pour écouter Sylvain Aguenon. Enfin, Sylvain, vous avez la parole. Sylvain, vous êtes en ligne depuis Mahagui?
Oui, vous me suivez?
Ah, c'est bon, on y va, on vous écoute. Allez-y, Sylvain. L'élite, l'intelligence congolaise, le lit scientifique congolaise, quel peut être son apport dans les accords de paix? Vous avez suivi notre invité qui a parlé de volet management stratégique opérationnel qui fait souvent défaut dans ces accords, ce qui, évidemment, pose des problèmes dans leur mise en œuvre effective. On vous écoute, Sylvain Aguenoff.
Je voudrais aujourd'hui vous surprendre que je suis de l'école de Saman, puisque moi je suis ressortissant de l'université Seproma de Bounia.
Ok.
Le recteur magnifique, le prof Saman, nous a appris ceci. Puisque quand l'invité parlait, les gens semblent peut-être entrer dans la confusion. Le management stratégique des instruments de pacification de l'Est du Congo, la V773, l'accord de Washington, l'accord prochain que nous aurons, et déclaration des principes de Doha veut dire quoi? Ce sont des règles générales déjà établies dans ces accords par les États ou les parties qui prennent partie à ces négociations. Mais le management opérationnel dont nous voulons faire allusion, ça sera quoi? Quelles sont les actions que nous mettrons en place pour opérationnaliser les décisions stratégiques qui ont été conçus par des personnes qui ne sont pas nous autres. Puisque l'on parle d'élite scientifique, je ne parle pas seulement des managers. Ça veut dire aujourd'hui, dans la juxtaposition des intervenants dans la recherche de la solution, il n'y a pas que le gouvernement, il y a la société civile, et c'est là où vous parlez des managers, c'est là où vous parlez des élites, dans votre terme. Eh bien, comment est-ce que les profs Saman parlent du dialogue de sourds? C'est tout simplement puisque au niveau du management opérationnel, où l'on devait solutionner les problèmes contenus ou concis dans ces accords d'une manière générale, dans leur mise en œuvre, certains acteurs sont exclus. Je vous donne un exemple. À notre niveau, nous, le ressortissant de ces programmes de Bounia, puisque moi je suis membre d'équipe dirigeante, nous sommes en train de mettre en place un chronogramme d'activité de surveillance ou de monitoring de réalisation de ces accords par toutes les parties prenantes. Je prends l'accord de Washington. Les Rwanda et l'Ouganda ont signé. Mais nous, nous avons notre cahier et notre stylo, nous sommes en train de cocher les actions qu'ils posent. C'est ça dans le management opérationnel. Comment nous sommes en train d'opérationnaliser les décisions que nous avons assignées à nous, la RDC et le Rwanda. Une élite, disons une élite, les universitaires, c'est toute une couche sociale des personnes responsables. Ils ne commandent pas. J'ai suivi le premier intervenant de Kampala. Les gens veulent faire comprendre que les scientifiques ne veulent pas. Non. Dans le Parlement, il y a des scientifiques. Au gouvernement, il y a des scientifiques. Lorsqu'on se détache de sa corpulence politique, on porte son casque de scientifique, il faut avoir un regard critique. C'est ce que l'invité était en train de discuter. Il faut faire intervenir les managers. Mais ce n'est pas que chose en train de commander auprès du gouvernement. Il est question de toutes les sociétés modernes. La classe scientifique suit de près ce que la classe politique fait. Ce n'est pas le cas chez nous. Est-ce que c'est à cause de la famille, les scientifiques soient à déphasage de ce qui se passe, où les gens sont lassés, les gens sont débattés. Chaque matin, M. Marcel, on se réveille, nous surveillons la scène politique. Là, la déclaration des principes des droits, signée au mois de juillet ici, et le mois courant, qu'est-ce que le M23 est en train de réaliser comme opération, c'est ça le management opérationnel, comme opération pour qu'on arrive à la conclusion de l'accord qu'on obtient d'ici le mois d'août. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Je donne des exemples clairs. Si dans la déclaration des principes, on demande à l'État congolais de pouvoir libérer ces prisonniers du M23 pour provoquer la décrispation des climats entre les deux parties. Il faut le faire. C'est ça l'opérationnalisation de la direction des principes. Si de l'autre côté, le M23 doit cesser d'attaquer les civils, c'est ça le mandat opérationnel de cette déclaration des principes. Je vais m'arrêter ici, monsieur Martial. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent.
Voilà,
il
merci.
Y a un souci de l'organisation de l'élite congolaise pour apporter un petit plus dans la gestion globale du pays. Aujourd'hui, nous parlons seulement des accords de paix. Je m'arrête là.
Voilà, merci beaucoup, Sylvain Aganoff, d'avoir appelé depuis Magui. Blessé, dit vous êtes à Kisangani. Vous avez la parole. On vous écoute.
Bonjour à l'invité, ainsi que l'invitrice invitée de la radio Kabi, Chère Marcel. Étant donné que la thématique est très importante au regard des crises de notre pays, et vu que donc, nous sommes déjà vers une voie de sortie de la crise, donc il y a toujours les questions qu'il faut nécessairement se poser. Donc, l'élite scientifique est un acteur stratégique dans la construction de la paix. Donc, par neutralité, rigueur intellectuelle et capacité de proposer quelques pistes de solutions, telles que Sylvestre venait déjà de parler et Cassis de Kampala venait aussi de parler, puisqu'il y a des scientifiques comme le professeur Bob Kabamba, le professeur Maïndo, le professeur Kazir Ngumbi, nécessairement, ils devraient être consultés. Néanmoins, nous ne savons pas comment est-ce que le gouvernement congolais a annoncé d'organiser. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ici, cher Marcel, l'élite congolaise, l'élite scientifique ne siège presque jamais aux tables de négociations. Donc, vous voyez, ils sont considérés comme des réserves. Donc là, on est que les politiques, les rebelles et les diplomates. Alors, les rôles restent secondaires, c'est souvent réduits à l'analyse ou encore aux conseils extérieurs. Donc, l'absence, cher Marcel, il y a aussi un problème, que cette élite scientifique congolaise allait quand même avoir une plateforme officielle. Et cette plateforme officielle allait quand même permettre à l'intelligence congolaise de peser pas institutionnel pour les décisions finales. Mais il se fait mal, je ne sais pas, peut-être l'éviter là, il peut quand même nous éclairer. Il y a quand même une forme officielle qui pèse vraiment sur les institutions.
Voilà, merci.
Marcel, il y a quand même des questions qu'il faut s'interroger. Je vais chuter, cher Marcel.
Allez-y.
Pourquoi les rôles et les maîtres? Donc, à mon avis, j'ai trouvé ça trois volets. Donc, il y a le volet d'efficience politique. C'est-à-dire, les intérêts ou indépendants. Donc, imaginez même lorsque nous suivons les thèmes des dialogues entre Congolais, voire même ici, nous sommes PA, il y a toujours les invités. Lorsqu'on appelle le professeur Karamba, on invite le professeur Casimir, le professeur Maïs. Non, les gens pensent bien que non, ils sont contre le pouvoir. On a que non, ils sont en train de donner des pistes de solutions. Il y a aussi faible valorisation de la recherche locale, surtout au niveau des processus de paix internationaux. Et il y a également manque d'organisation collective des chercheurs. Ah, voilà, je me limite à ce niveau-là pour donner l'occasion à d'autres personnes.
Voilà, merci beaucoup, Blaise Saïdi. Depuis Kisangani à Lubumbashi, on va retrouver Maître Patrick Odia. On vous écoute, Maître.
Bonjour à l'invité, le procès, et à d'autres qui ont pris déjà. Je voudrais aborder ce point. Par exemple, les corps d'élite ne sont pas encore restreints d'intellectuels ou des. Ils peuvent réfléchir au pour proposer des solutions durables également. C'est comme à nuancer avec cette universitaire, scientifique, même intellectuelle également. En MVC, on a galvaudé, on a quasiment ramené au sol ce concept d'élite. D'une part, parce qu'il y a une politisation excessive des processus de paix qui écarte les voies neutres. Mais aussi, il y a la méfiance entre politique mais aussi scientifiques, parce qu'ils sont perçus comme étant des citoyens qui critiquent, ayant un regard trop critique. Il y a également le manque de la valorisation de la recherche. Vous voyez, sous notre ciel, Marcel, vous prenez par exemple en France, professeur de Paul sur les conseils du professeur, vous le professeur, Macron, qui est le président français, Paul Ricoeur comme modèle de pensée, comme dirigeant de l'école de l'élite, qui nous propose des idées, produites afin d'améliorer la gouvernance. Si vous partez par exemple Poutine, Poutine à Ivan Ilou, et vous prenez autant de, d'autres pays également, l'Europe ou à l'Occident, ils ont des modèles de réflexion, d'intellectuels, des élites, qui réfléchissent, qui produisent et qui conseillent également les chefs ou les rois à prendre des bonnes décisions. Et dans les cas des faits en RDC, je pense que dans la diplomatie moderne, ça aurait été mieux que dans l'équipe qui a mené des négociations avec les rebelles, avec le Rwanda, il y a une équipe pluridimensionnelle, prenant en compte les juristes, les managers comme les professeurs, mais les anciens ambassadeurs, les anciens négociateurs, les politologues, les littéraires, pour essayer d'avoir toute cette sagesse, pour préciser certains concepts sémantiques également. Parce que nous, en droit, un concept ça peut être mal le plus épais mené pour aboutir à des conflits d'interprétation également. Et pour épargner tout ça, ça aurait été mieux que les managers qui le font aussi, les juristes, les politiciens, les tous ces experts soient dans ce que nous appelons des corps de l'île. Malheureusement, ils ne sont pas subis, ils sont perçus comme étant trop critiques envers le pouvoir. Et pourtant, c'est ça leur rôle également, Martin. Alors, quel est le rôle de la foi, si vous voulez, de l'élite congolaise? Moi, je pense que l'élite congolaise pouvait, si elle était associée, analyser les causes profondes des conflits, notamment des modèles de gouvernance, modèles de pauvreté, et y apporter également des solutions durables également. Elle devait, ces élites, elle devait également proposer des solutions durables fondées sur des données objectives du marché. Beaucoup d'autres qui s'appellent universités ou autres se basent sur des données subjectives, en fait, être vues par les chefs. Et pourtant, les corps d'élite, elles devaient être fondées sur des données objectives, afin de mener non seulement la médiation, mais aussi apportant des arguments nets, factuels et techniques, comme on est en train de les donner dans le sujet tout à l'heure même. Et même dans la diplomatie. Ces élites, via des institutions universitaires ou des comités consultatifs, devaient proposer aux chefs. Et quand je parle des chefs, je ne parle pas seulement des chefs congolais, mais aussi en Afrique, c'est une carence. Ils existent, ces corps d'élite, mais seulement qu'ils ne sont pas considérés. Ou d'autre part, d'entre eux également, ne sont pas valorisés du point de vue appui financier, appui méthodologique, afin de mener des réflexes profonds, pouvant également aboutir à des résolutions. Donc vous voyez que la responsabilité beaucoup plus incombe aux gouvernants africains qui négligent ou qui ne connaissent pas la réalité ou l'importance des élites dans la gouvernance également.
Moi, voilà,
je suis
merci.
Un villageois, Marcel. Oui. Mon grand-père, je voulais citer, permettez-moi, je suis un villageois. Mon grand-père est actuellement grand chef coutumier du côté du Kouta à Moulungu, Binaen Abidjan. Et lorsque j'essaie de marcher avec lui, toutes les décisions, il ne les prend pas. Il y a ce que nous appelons les sages du village. Qui produisent des idées et qui proposent au roi, et le roi propose, donne ça aux exécutifs, afin de pouvoir diriger et attaquer ou faire ce que ce soit. Ces modèles-là, pour vous, s'il est appliqué, peut aider les Congolais, non seulement les Congolais, mais aussi le monde africain, à sortir et à résoudre des questions profondes.
Voilà, merci beaucoup, Maître Patrick Claudia, depuis Lubumbashi. On va écouter encore deux auditeurs, Kimbiza, Gaston, depuis Kinshasa. Et Franck qui nous appelle de Vienne en Autriche, et puis on va lire peut-être une ou deux réactions sur la page Facebook de Pause Auditeur, et puis on va revenir à notre invité, le professeur Roland Vélé Mukelenge. Kimbiza, Gaston, vous appelez depuis Kinshasa, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole. D'entrée du jeu, moi j'aimerais réagir sur certains points qui énervent dans ces accords, celui de Washington et de Doha. Je ne comprends pas pourquoi dans tous ces désaccords-là, il n'y a pas cette phrase-là, les retraits immédiats des troupes étrangères dans les pays. Je ne comprends pas que les groupes qui nous ont représentés aux États-Unis et à Doha ne puissent pas exiger ces retraits. Nos frères qui sont à l'Est sont en train de vivre un calvaire impossible en ce jour, avec ceux-là qui occupent la partie Est du pays. Le deuxième point que je voulais soulever, et ça, je voulais vraiment que le chef de l'État m'entende, je ne parviens pas à réaliser comment nous avons accepté cette présence des êtres de l'air chez nous. Les êtres de l'air n'existent plus chez nous. Ça, c'est le grand prétexte de Kagame, et que nous avons gobé cette présence ici. Cette question me dépasse. Néanmoins, je voudrais quand même réagir par rapport à ces désaccords et à ces négociations qui sont en cours.
S'il vous plaît, Kimeza, aujourd'hui on ne réagit pas par les négociations qui sont en cours pour la déclaration des principes de l'accord de Washington. On parle plutôt de l'apport scientifique, parce qu'il faut qu'on reste précis. Les scientifiques, notamment les experts en management, pensent que c'est simplement lorsque là, ces accords, on n'associe pas l'aspect scientifique, notamment ce qu'ils appellent management opérationnel et stratégique. Voilà pourquoi ça pose souvent des problèmes dans leur mise en œuvre effective. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'apport de l'élite scientifique congolaise dans les accords de paix? C'est ça le sujet. Rapidement, je vous accorde une minute parce qu'on doit avancer.
C'est dans ce sens que je voulais aborder la question.
Allez-y, oui.
L'apport des scientifiques, c'est que malheureusement, les scientifiques n'ont pas écouté dans toutes ces négociations. Vous avez un exemple important, Didier Losenjola, qui a fait une suggestion. Quand les politiciens négocient, ils estiment avoir maîtrisé tous les paramètres. Et donc, cet apport-là, pour moi, il reste théorique parce qu'il ne sera jamais pris en compte par les décideurs qui sont les politiciens. Nous pouvons réfléchir, nous pouvons donner faire des observations, mais tant qu'on n'est pas politique, les décideurs ne tiennent pas compte de nos suggestions. Je m'arrête par là.
Voilà, merci beaucoup, Kimbeza Gaston, depuis Kinshasa. En dehors de nos frontières, nous avons Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, allez-y, qu'est-ce que vous pensez de l'apport des scientifiques dans les accords de pays, à l'exemple de l'accord de Washington?
Oui, merci beaucoup. Bonjour à vous tous au studio, bonjour à l'invité. L'apport de l'élite scientifique pour la marche de chaque État qui se veut moderne doit être fait en amont et en aval. En amont, au moment de la conception, étude de faisabilité, manière de l'exécution, puis en aval, étude d'opérationnalisation, comment tout cela est possible. Par rapport à tout ce qui est déjà dit, je crois qu'il faut seulement soulever une grande difficulté, c'est de savoir si chez nous, ceux qui nous dirigent acceptent d'abord de se faire accompagner par les scientifiques avant de prendre certaines décisions. Est-ce que les scientifiques sont-ils convenablement exploités? C'est l'une des questions à laquelle on peut répondre. Mais dans la mesure où on nous dirait qu'il y a des scientifiques qui sont associés par rapport à la prise de certaines décisions, nous devons aussi nous demander quelle est la qualité de l'apport de leurs conseils. Je crois que c'est autour de ces deux questions que se trouvent toutes les grandes difficultés dans lesquelles nous nous trouvons au Congo. Parce que on peut se dire scientifique anglais, au Congo nous avons des scientifiques, mais il y a seulement des scientifiques qui, au lieu de se servir de leur savoir pour la bonne marche du pays, pour le bien collectif, ils ne se servent de leur savoir que pour le bien personnel, pour leur ventre, pour se faire ovationner. Alors, quand maintenant vous êtes entre ces deux difficultés, vous avez des scientifiques qui ne travaillent pas pour l'avenir collectif, pour le bien collectif, vous les avez seulement pour leur propre gloire et gloriole. Et c'est aussi là un problème de conception éducative, un problème de patriotisme, un problème de crise anthropologique existentielle.
Voilà, merci.
Donc, ce que le professeur venait de dire, c'est tellement pertinent.
Oui.
J'avais des échanges avec lui et je crois qu'il se souviendrait des observations que je lui avais faites. Nous avons des scientifiques, mais comment agissent-ils quand ils se retrouvent maintenant dans les sphères des décisions au niveau étatique?
C'est voilà, là merci le beaucoup. Merci beaucoup dont vous parlez également du comportement de ces scientifiques lorsqu'ils sont abordés par des politiciens. Souvent on met la science de côté au profit de certains intérêts. Vous avez par exemple de la gloire ou bien de positionnement politique. Voilà, merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne. On va prendre le tout dernier Alfred Kabila depuis Mbujimayi. Alfred, je vous accorde une minute, je vous en prie, en une minute, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette question de l'apport de l'élite congolaise dans les accords de paix? Allez-y, vous avez une minute.
Oui, merci beaucoup, monsieur Rappel. Merci à tous les auditeurs de la radio Okapi. Comme on va parler une minute, là, on ne va pas traîner dessus, on donne une petite piste de solution sur l'accord de paix et aussi les déclarations principales de Doha et aussi l'accord de Washington.
Alfred, allô? Allez-y. Vous n'avez pas assez de temps, allez-y. Vous perdez déjà des secondes, allez-y.
Oui, oui. Moi, je crois que ce n'est pas question de mettre. Ce n'est pas question. D'abord, en première position, je soutiens beaucoup le communiqué de la communication et le nouvel élan de Dalos Mouto. Et aussi, je lance l'appel à tous les Congolais, résoudre la crise de la République, hein, ce n'est pas toujours simple de se mettre autour d'une table pour de discuter sur ce qu'on doit faire.
Voilà, merci. On n'a plus assez de temps. Merci Alfred Kabila, depuis Mbujimayi. Professeur, vous avez la parole pour conclure. Vous insistez pour réussir la mise en œuvre effective des accords de paix. Il faut absolument ne pas négliger l'aspect volet management opération stratégique.
Effectivement, je remercie tout le intervenants de tout à l'heure, mais je voudrais rappeler ce que le professeur Nsaban dit dans ce qu'il a publié. Il dit « Le management stratégique est l'art d'anticiper, d'élaborer et de mettre en œuvre des choix durables pour assurer la survie et la croissance d'une organisation dans un environnement complexe. » Voilà. Et là, c'est tout dit. Ici, il faudra qu'on puisse appliquer, donner des solutions pratiques à des problèmes. Et pour y arriver, il faut associer un grand nombre. Le management fait une approche transversale. On a besoin des sociologues, on a besoin des juristes, on a besoin des internationalistes, on a besoin des politologues, on a besoin des philosophes, on a besoin des historiens. C'est cette approche globale. Et là, comme vient de dire la plupart des intervenants, il faut associer l'intellectuel congolais dans toute sa diversité. Je vous donne un exemple pratique dans l'opérationnalisation. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Mais pour résoudre la question de la guerre à l'Est, il faut analyser cette guerre. Dans mes analyses passées, j'ai dit que nous avons deux situations à l'Est. Il y a la guerre de l'Est et la guerre à l'Est. La guerre de l'Est, c'est quoi? C'est cette réunion. C'est ce conflit international et qui a des ramifications à l'Est pour des raisons diverses, économiques, politiques, ainsi de suite. Et pour les résoudre, il fallait Washington, parce que Washington a la force. Mais nous avons aussi la guerre à l'Est. C'est des conflits ponctuels qui arrivent, à chaque fois des gens sont mécontents, alors ils courent vite à l'Est pour dire, il y a une porte là-bas, je vais là-bas pour justement demander à ce qu'on puisse m'écouter. À ce moment-là, le manager, l'intellectuel doit savoir comment résoudre ces deux types de conflits. Voilà pourquoi il faut une approche globale, transversale, et le management doit être en principe enseigné à l'université dans toutes les facultés, afin que chaque étudiant, chaque chercheur qui termine dans tel ou tel autre domaine soit aussi, n'est-ce pas, ait aussi une dose de management dans la réalisation de sa science.
Voilà, merci beaucoup, professeur Roland Vélé-Mukelenge. Je rappelle, vous êtes professeur des universités, docteur en philosophie politique et chercheur en management. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Et voilà, fin de ce numéro des Paroles aux auditeurs de 6 jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita, qui est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Jules Feza. Bongo Daki est également à la coordination. Merci également à Paul Badianama, qui est là pour l'équipe multimédia au micro, c'était Marcel Ngombal. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suivi des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.